vont reprendre le chemin de l'école dans 2 semaines, mais à quel prix les élèves de Kinshasa devraient accéder à l'école? Restez avec nous pour en savoir plus. Une nouvelle entreprise ouvre ses portes à la fin de ce mois d'août dans la capitale congolaise. Environ 70 personnes pourront trouver un emploi au sein de cette firme canadienne. Siwon Management, c'est le nom de l'entreprise. Et puis cette première, dans la province de Lomami, la cité de Ngandajika est dotée d'une station-service pour la vente des produits pétroliers. Cette œuvre serait financée par 2 particuliers, dont une congolaise et une espagnole. Bonsoir et bienvenue à tous. Vous savez sûrement que les bleus-blancs reprennent le chemin de l'école dans 2 semaines et il faut pour cela débourser de l'argent afin de remplir les conditions d'accès à l'école. Nadine Foulansimba, bonsoir.
Bonsoir Mireille.
Dites-nous exactement combien d'argent devons-nous, nous parents bien sûr, allouer aux préparatifs de la rentrée scolaire, du moins pour les maternelles et les primaires.
Effectivement, nous n'allons pas parler des humanités parce que les préparatifs dépendent des différentes sections. Toutefois, Mireille, avant de parler du budget alloué, il faut d'abord, dès le départ, catégoriser l'école dans laquelle votre enfant étudie. Parce qu'il y a des écoles publiques, conventionnées catholiques ou protestantes, privées et internationales. Alors, si votre enfant est inscrit dans une école publique, vous devez d'abord payer les frais des fournitures qui s'élèvent à 5 000 francs congolais, les minervales à 90 000 et l'achat des l'uniforme à 8500 francs. À cela, ajoutez 4 ou 5 cahiers, crayons, stylos, sacs et autres qui peuvent coûter 13 500. Donc, pour cette catégorie, réservez un budget d'environ 127 $ par enfant. Et pour une école conventionnée protestante, par exemple, il faut payer en moyenne 60 $ pour les fournitures, 10 $ pour l'uniforme et 700 $ pour les minervales, ce qui vous fait un coût aux environs de 800 $ quand vous ajoutez sacs et chaussures.
Et j'imagine que c'est encore un peu plus pour les écoles privées.
Évidemment, une école privée exige 100 $ pour les fournitures, y compris l'uniforme, les cahiers et les livres de location, et les minervales varient entre 800 et 3 000 $. Et enfin, pour une école internationale, il faut mettre le boucher double. Il faut au moins 3 000 $ pour les frais scolaires, 200 $ pour les frais administratifs, 600 $ pour la restauration, 135 des tenues scolaires et 300 pour le club, ce qui vous fait en moyenne 4 435 $ pour tous les budgets. Voilà Mireille, une idée générale de budget à réserver, mais ces prix varient évidemment d'une école à une autre. À vous de faire le choix selon vos moyens.
Nadine, vous l'avez dit un peu plus haut, les écoles proposent des fournitures scolaires que nous pouvons également trouver sur les marchés. Est-ce que les prix sont pareils?
Bien sûr que non, les prix sont très différents. Une comparaison des prix au niveau des écoles, des supermarchés et des marchés nous donne à peu près ceci. Au marché central de Kinshasa pour commencer, un paquet de crayons ordinaires varie entre 350 francs à 650 francs, dont moins de 1000 francs, alors que des écoles le proposent à au moins 1000 et au-delà. Un mètre de tissu teinté rond de couleur blanche plus la couture vous coûte plus ou moins 5 $, tandis que les écoles vous imposent les uniformes autour de 25 $. Il faut dire que ces prix diffèrent d'une école à une autre.
Merci Nadine.
Je vous en prie Mireille.
Je voulais annoncer une nouvelle entreprise à voir le jour en République démocratique du Congo. Siwon Management compte ouvrir ses portes à partir de la fin de ce mois d'août. Cette firme canadienne dirigée par un citoyen congolais pourra employer au moins 20 Congolais ici sur place. Pour mieux se faire connaître du public congolais, Siwon Management tient une conférence sur l'industrie de la sécurité privée et sur la protection incendie. Ce sera ce jeudi 27 août à Beatrice Hotel. Mais déjà, son président nous parle de cette entreprise et de ses objectifs. Christian Bamou.
Nous sommes ici pour un projet d'implantation. On est installé au Canada depuis 2009. C'est une entreprise qui a une raison sociale au niveau des formations professionnelles en sécurité. En fait, notre objectif, c'est vraiment pour mettre à niveau les compétences de personnel en entreprise, des unités également administratives. Siwon Management, vu que nous sommes une entité, à caractère management, nous avons un projet de se développer dans plusieurs domaines. Vu que nous offrons aussi des services aux entreprises au niveau des analyses et gestion des risques en entreprise, nous comptons au moins employés, je dirais, comme ça facilement, à peu près dans le 25-70 employés, dépendamment des divisions que nous allons créer par la suite, bien sûr sur le terrain local. Actuellement, on est en processus d'une activité que nous organisons au cours de la semaine, qui va débuter le 27. En fait, l'activité en question, c'est une conférence qui parlera sur la sécurité privée et au niveau de la protection incendie. Après avoir fait plusieurs statistiques, plusieurs recherches, et nous avons constaté vraiment le métier de la sécurité privée en tant que tel n'est vraiment pas reconnu comme à l'Occident. On parlera des enjeux et le métier en tant que tel qui est un peu mal aperçu en Afrique, on va dire comme ça.
Au Kasaï Oriental, la société minière de Bakwanga Miba, en abrégé, est intéressée par l'énergie solaire pour la relance des activités de sa production. Un groupe d'investisseurs tchèques séjourne à Mbujimaï depuis le mercredi dernier sur invitation des autorités de la Miba. Chris Mkand.
Professeur Dieudonné Mbaïcha Kanichabantou, directeur général ad intérim de la Miba, explique que ces investisseurs ont la capacité d'offrir de l'énergie solaire pour l'éclairage public, l'usage domestique et même l'énergie dans l'industrie minière. C'est par rapport à cette dernière possibilité que la Miba a contacté les Tchèques pour analyser les possibilités d'accroître la capacité en énergie afin que son industrie fonctionne normalement. Le projet tchèque de construction d'une centrale d'énergie solaire pourrait produire jusqu'à 1 mégawatt de courant électrique. Ce projet dont l'enveloppe de financement est évaluée à 1 million de dollars américains a besoin de 3 mois pour se matérialiser à dater de la signature du protocole d'accord à printemps. Le directeur général ad intérim reconnaît certes que la Miba est une société en difficulté. Toutefois, elle lutte chaque jour pour pouvoir se redresser. Professeur Dieudonné Mbaïcha Kanichabantou affirme que depuis le début de cette semaine, le plan officiel de sortie de crise de la Miba a été adopté par le conseil d'administration et diffusé auprès des actionnaires. Il qualifie ce plan de boussole permettant à la Miba de savoir clairement où elle va. Depuis sa mise sur pied il y a déjà une année, le comité de gestion de la Miba a multiplié des contacts avec différents partenaires. Il a amorcé des pourparlers avec des investisseurs chinois pour un contrat d'amodiation pour l'exploitation des gisements de diamants sur la rivière Lubilanji au Sankuru. Quelque temps auparavant, la firme indienne PML a proposé à la Miba de lui fournir des engins miniers pour la relance de sa production. Il y a beaucoup d'aspects positifs dans tous ces contacts avec les différents partenaires. Il y a de l'espoir, soutient le professeur Dieudonné Mbaïcha Kanichabantou. Mukande, Chris, Mbujimaï et Code Économie.
Et Daniel Tambinzoni nous raconte la petite histoire de la Miba.
La minière de Bakwanga, Miba en abrégé, est une société qui a été constituée le 13 décembre 1961 en tant que société congolaise par action à responsabilité limitée. Elle avait repris en fait les activités minières de la société minière de BCK appelée Fort Minière avec comme siège à Tchikapa et qui lui avait fait un apport de ses actifs en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le capital de la Miba est détenu à majorité à concurrence de 80% par l'État congolais et de 20% par Sibeka, société anonyme de droit belge. Son siège social est basé à Mbujimaï, chef-lieu de la province Kasaï orientale avec toutes des extensions dans le Grand Kasaï. La Miba, il faut le relever, détenait seul des droits exclusifs de recherche dans le Grand Kasaï. Cette zone, jadis à droit exclusif, a été, à la demande du gouvernement central, ouverte à l'exploitation artisanale dans le cadre des mesures de libéralisation, de la détention, de la circulation et du commerce de pierres et métaux précieux, à l'exception du polygone minier de la Miba à Mbujimaï. Par les ressources qu'elle a procurées à l'État en termes d'apport en devises ou sous forme d'impôts et taxes, la Miba a occupé une place importante dans l'économie nationale avant de sombrer à cause de la mauvaise gestion qui serait à la base de cette situation. La Miba croulerait aujourd'hui sous de dettes énormes et les salariés accuseraient des retards de salaire de plusieurs mois. Certaines mines ont même été fermée depuis plusieurs années. Parmi les pistes envisagées pour relancer sa production, la Miba s'intéresse aujourd'hui à l'énergie solaire. Pour cela, un groupe d'investisseurs tchèques séjourne depuis mercredi dernier à Mbujimaï sur invitation des responsables de la minière de Bakwanga.
Éco d'économie.
La nouvelle province de la Lomami, issue du démembrement du Kasaï oriental, vient d'être dotée d'une station-service pour la vente des produits pétroliers. Cette station-service installée en face du grand marché de la cité des Ngandajika est l'œuvre du projet d'Itunga, comme nous l'explique Chris Mukand.
La station-service OGK est installée en face du grand marché de la cité de Ngandajika. Il a une capacité de stockage de 40 000 litres de gazoil ou mazout, 40 000 litres d'essence et 10 000 litres de lubrifiant. Il y a également un point de vente des divers produits nécessaires au fonctionnement des véhicules et des motocyclettes. Le prix du litre de produits pétroliers est pratiquement identique à celui de Mbujimayi, 2300 francs congolais. Pour un litre d'essence et 1800 francs congolais pour le mazout. La hauteur du financement de cet investissement n'a pas été révélée. Le promoteur de produits, Apollinaire Chibaka, indique que deux dames, une congolaise et une espagnole, ont dû mettre la main à la poche. Leur souci, c'est qu'une partie des bénéfices qui seront générés par cette station soit investie dans le travail social du projet d'Itunga. Il s'agit en fait du désir de créer des ressources d'autofinancement des activités de ce projet qui repose en grande partie sur la générosité des institutions et des familles du Royaume d'Espagne. La station-service OGK, on pourrait en parler comme de la toute première de la province de la Lomami, voire de toutes les autres nouvelles provinces nées de la désintégration du Kasaï oriental. Sur la ville de Mbujimayi, par exemple, on ne compte pas plus de 5 stations-service. À mon idée de tout, c'est juste des installations qui ressemblent ni plus ni moins à des points de stockage. Le président du conseil d'administration du projet d'Itunga plaide pour l'exonération des taxes locales qui pèsent sur les produits, mais gracieusement la disposition de produits par les bienfaiteurs. Pour sa part, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassongé, qui a eu le privilège d'inaugurer la station-service OGK, s'engage à instruire dans ce sens la direction provinciale de recettes des Perrin Abrégé. Mbujimayi, Chris Mukand, Écho d'économie.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition mise en onde par Jean-Claude Onciala et suivie par vous. Merci.